C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris.
Bonsoir et bienvenue à vous qui écoutez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris. Vous venez d'entrer dans une heure dédiée aux 10 grands arts de l'humanité avec un focus de ce qui se fait pour chacun d'entre eux à Paris et dans sa région. Une heure où quasiment tous vos sens sont en veille, tous, sauf Louis. Ce sens qui vous mène pas à pas vers une succession d'images, des scènes rapides à travers un tour de l'actualité, montre en main et furtif, ou des scènes plus lentes qui vous montrent l'amour ressenti par quelqu'un, l'élucidation d'une enquête, ou une scène musicale sur laquelle se trouve un artiste accompagné de guitare pour y présenter son répertoire musical. C'est dans l'art est une émission qui vous propose des objets culturels, et pendant une heure, vous avez le choix de les imaginer, voire de les vivre, sur le moment, à l'instant, comme un avant-goût de ce que vous découvrirez le jour J, le jour de votre rencontre avec cet ou ces objets. Une heure où vos autres sens, comme le toucher, le goût ou encore l'odorat, semblent en veille, en apparence, mais pas vraiment au fond. Parce qu'il est possible, à travers l'imaginaire d'effleuré, de tourner quasiment les pages de ces livres qui nous traversent l'esprit, de sentir l'odeur de cette guitare si particulière, même chère à nos yeux, ou encore goûter cette boisson ou ce mets sucré décrit dans votre livre du moment, entendu dans votre podcast régulier ou vu dans la série que vous venez de commencer. Un imaginaire puissant, présent dans chaque objet culturel, et un échantillon de cet imaginaire, extrait par une équipe passionnée qui vous propose leur sélection de ce qui les fait vibrer pour que vous puissiez vibrer à votre tour. Que vous soyez déjà fidèle à notre émission de culture ou tout simplement curieux de savoir ce qu'il se fait, ce qu'il se dit, ce qu'il se crée, vous êtes au bon endroit, vous écoutez C'est dans l'art, l'émission d'actualité culturelle de Radio Campus Paris qui explore ce qui se fait dans le Grand Paris, une heure qui démarre maintenant.
Et de quoi parlons-nous dans C'est dans l'art ce soir? Allez, on se plonge dans une histoire d'amour avec le roman Sphinx d'Anne Garetta. On découvre le live d'Arthur Ely. On se replonge dans l'immense film Virgin Suicides côté ciné. On enquête sur un meurtre mystérieux avec le podcast Qui a tué Maurice? Et enfin, nous irons au jardin du Luxembourg pour parler sculpture. Encore plein d'univers à découvrir pour passer l'été artistiquement. Vous êtes dans C'est dans l'art. C'est sur le 93.9 FM en Ile-de-France, sur le Canal Campus en DAB+, et partout et tout le temps sur radiocampusparis.org. Amis curieuses, amis curieux, c'est parti pour une heure artistique.
C'est dans l'art, un dimanche sur quatre, sur Radio Campus Paris.
Et avec moi ce soir, autour de la table du studio direct de Radio Campus Paris, il y a Hugo.
Salut, salut.
Jeanne.
Salut.
Garance.
Salut.
Violette.
Hello.
Marie-Lou.
Hello.
Et Ryan.
Salut.
Prêt et prêt avec leur chronique. Vous venez d'entendre Fabrice qui co-animera les émissions d'été avec moi.
Salut.
À la technique dans la régie de Radio Campus Paris, il y a Eléa et je suis Léa pour vous accompagner une fois de plus au fil de cette heure. Salut tout le monde. On est en force ce soir pour parler d'art en ce mois d'août. J'ai hâte de vous entendre, alors commençons sans plus attendre.
C'est dans l'art. Sur Radio Campus Paris.
Une habitude bien en place et qui ne bouge pas à chaque début d'émission avec Jeanne qui nous guide dans l'actualité culturelle de ce mois d'août. Jeanne, on en profite à peine des vacances et tu nous parles déjà de retourner à l'école.
Oui, enfin pas n'importe quelle école. L'école idéale, c'est le thème et le titre d'une exposition à voir en ce moment au Magasin Généraux à Pantin, conçue avec le pavillon de l'Arsenal. En partant du constat que le modèle architectural et pédagogique de l'école primaire a peu évolué depuis un siècle, l'expo propose d'explorer des alternatives novatrices proposées par des architectes, des artistes, des designers, pour imaginer une école nouvelle, à la fois scolairement et esthétiquement, c'est à voir gratuitement jusqu'en octobre.
Un été comme sur des rails dans les arts médiatiques.
Les rails de la petite ceinture, en effet, cette ancienne voie ferrée parisienne, aujourd'hui reconvertie en une voie de promenade et un jardin pour plusieurs tiers-lieux. C'est le cas de la Recyclerie dans le 18e, qui propose tout au long du mois d'août le festival Gare au Doc, avec des projections de documentaires engagées tous les vendredis et samedis, en plein air, sur les rails, et c'est gratuit sur réservation.
Mais toi, ton programme cinéma de l'été est ailleurs.
Alors là, je vais pas me faire que des amis, mais mon programme idéal de ciné à Paris cet été se passe au cinéma Les Trois Luxembourg. Pourquoi ? Pour une rétrospective des plus grandes comédies musicales de l'histoire du cinéma, des classiques hollywoodiens jusqu'à La La Land, de Jacques Demy à Christophe Honoré, il y en a pour tous les goûts, je vous promets. Des films qu'on trouve difficilement sur les plateformes par ailleurs, et c'est toujours mieux sur grand écran, à voir jusqu'au 19 août.
Et pour se mettre au vert, deux festivals pour le prix d'un au Parc Floral.
Oui, au Parc Floral, au cœur du bois de Vincennes, ce n'est pas un, mais deux festivals qui se déroulent tout l'été. Classique Portico Vert et le Paris Jazz Festival, deux festivals chacun dans leur genre qui proposent concerts et spectacles en plein air gratuitement. Oui, il y a un thème aujourd'hui. L'entrée au parc est payante mais coûte 2,50€, donc c'est plutôt un très bon plan pour aller écouter de super artistes, du classique et du jazz, dans un super cadre en plus. Des concerts donc à découvrir jusque début septembre.
Quelques recommandations de lecture pour l'été peut-être ?
Deux recommandations thématiques que je commence avec le roman posthume de Gabriel Garcia Marquez, Nous nous verrons en août, paru en poche tout récemment. On y retrouve les thèmes de prédilection du romancier colombien, auteur de Cent ans de solitude, entre autres le deuil, l'amour ou encore le désir dans un décor d'île caribéenne. Et pour rester dans les îles, une bande dessinée imaginée par Antoine Decaune et Xavier Coste, intitulée Île déserte, île IL, au sous-titre Georges ou la vie sauvage. Georges, c'est Georges Decaune, aventurier, journaliste et père de l'auteur qui un jour, en 1962, a décidé de tout quitter pour partir vivre sur Eyao, une île déserte polynésienne, pour raconter sa solitude sur les antennes de la radio française. Moi, du coup, j'hésite à changer de projet de vie. Son fils, donc, se rappelle de cette épopée et la retrace à l'aide des journaux intimes tenus sur l'île par le journaliste. Île déserte, c'est paru chez Dargaud.
Et pour finir, quels albums est-ce qu'on va écouter sur la route des vacances ?
Là encore, il y a du choix. Je vous en cite trois sortis dans les dernières semaines. D'abord, celui très attendu de Lorde, intitulé Virgin. La chanteuse britannique revient après 4 années de silence avec un album introspectif, pop et puissant qui séduit déjà. En France, c'est la chanteuse Camille Yembe qui fait une entrée remarquée dans l'industrie avec Plastique, son EP sorti il y a quelques mois et dont les titres comme Coup de soleil promettent de nous suivre tout l'été. Et enfin, trois sœurs, Esté, Alana et Danielle, forment le groupe AIM, trois sœurs survoltées qui se baladent entre le R&B et la soft pop californienne à la Fleetwood Mac. I Quit est leur dernier album à l'énergie communicative.
Merci Jeanne pour ce point actu, il y a beaucoup à découvrir et je crois que vous avez eu un bel échantillon. Plongeons-nous dans les sujets du jour sans plus attendre.
Architecture,
sculpture, musique, c'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
De la poésie sur un air de guitare, de l'absurde, beaucoup d'absurde et des mélodies envoûtantes. Pour commencer les sujets du jour, on découvre le live d'Arthur Ellie. Hugo, c'est toi qui nous en parles dans la rubrique musique.
Et oui, pour une fois, je suis à la rubrique musique, pas jeux vidéo. Petite victoire pour moi. Merci Snell que vous aurez la chance d'écouter pour la prochaine émission qui prend ma place dans la chronique jeux vidéo. Je prépare le terrain. Et donc, pour revenir à Arthur Ellie, il faut savoir que je l'ai découvert cette année et c'est vraiment ma découverte de cette première moitié de 2020. 25, avec son album Saignant en premier, mais Hyper Poésie, en fait, c'est la live session, la version live de Saignant, d'abord publiée sur YouTube en avril dernier, mais disponible sur les plateformes de streaming seulement depuis juin. Arthur Ellie, c'est un auteur, compositeur, interprète, et il est, pour moi, déjà un grand artiste. Ses chansons sont pleines de poésie, il y raconte la vie, l'amour, mais il y dénonce aussi l'état d'un monde qui s'effondre. Son style est au croisement d'une multitude de genres, d'une multitude de styles, allant du rap au folk, en passant par tout ce qu'il y a entre les deux, avec des paroles mi-parlées, mi-chantées, et même mi-rappées. Et pour le comparer à d'autres grands noms de la chanson française, on peut bien sûr évoquer Brassens, mais à titre personnel, je le comparais à Anne Sylvestre, mais j'avoue, c'est surtout parce que je rêve en secret de le voir reprendre certaines chansons d'Anne. Avec Hyper Poésie, on tient pour moi vraiment la meilleure version possible de ses chansons. La live session permet vraiment d'explorer tout le potentiel poétique et de ressentir toute la douceur de ses textes dans une ambiance très intimiste, comme une soirée de camping autour d'un feu de camp. Avec comme point d'orgue un texte de Selim A, exclusif à la version live, un texte tendu, un texte poignant qui vient parfaitement se fondre dans l'album, comme un coup de poing à l'âme, une larme versée au creux de nos cœurs. Maintenant, si vous le voulez bien, j'aimerais tenter un petit exercice d'analyse de texte pour pouvoir vous montrer toute la richesse que contient l'écriture d'Arthur avec un petit extrait de sa chanson « Le monde est grand » où il dit notamment que « le monde est moins grand pour les chômeurs en bas sur le banc, il est plus adapté pour les oiseaux, pour les rentiers, pour les blancs. » Le monde est moins grand. C'est une litote presque euphémisante qui ne cache rien mais qui agit comme un regard qu'on détourne d'une vérité qui dérange pour ne pas dire que le monde des pauvres est plus petit. Car les chômeurs, ils sont en bas, ils sont assis. C'est l'image du pauvre, du SDF qu'on ignore, alors qu'il nous dit bonjour. Puis, il est plus adapté pour les oiseaux. Rapport de distance, l'oiseau est en haut, le chômeur est en bas. Il est libre et le chômeur est en bas et il est toujours assis. Cette opposition est renforcée par l'enchaînement pour les oiseaux, pour les rentiers. Les rentiers aussi, ils sont hauts, mais en haut de la domination sociale et de l'argent, là où le chômeur, il est pauvre. Et eux aussi, ils volent, ils peuvent prendre l'avion. Puis, il est plus adapté pour les blancs, c'est la domination blanche qu'il évoque. Il est plus facile pour un blanc de voyager, ses actions sont moins jugées, là où le monde des personnes racisées est plus restreint. À cause du racisme, on peut notamment cité l'exemple du fait qu'il est plus difficile de trouver un appartement ou un travail pour les personnes non blanches. Et finalement, l'enchaînement de l'oiseau du rentier blanc nous dépeint un milliardaire en jet privé qui détient le monde dans le creux de sa main, en opposition aux chômeurs racisés qui subissent le monde et qui sont toujours assis, toujours en bas. Cet extrait a beau être petit, il est représentatif de la qualité des productions d'Arthur Elie et de ses textes, que je ne saurais que trop vous recommander d'aller écouter, pour pouvoir vous poser le temps des quelques 20 minutes que dure l'album.
Et est-ce que tu as des dates de concert à donner peut-être ?
Oui, alors pour les intéressés, il organise une petite tournée en fin d'année, à partir du 12 novembre à Bordeaux à Ibaut, le 13 novembre à Châtenay-Malabry au Pédiluve, le 21 novembre à Lyon au Tout Bout de Champ, le 2 décembre à Lille au Bulle Café et enfin le 10 décembre à Paris au Point Éphémère.
Alors tu nous recommandes d'aller le voir en concert ?
Eh bien vu la qualité d'hyperpoésie, moi j'ai qu'une envie, c'est d'aller l'entendre chanter et de chanter avec lui en live, en concert. Et je pense même que ses chansons, c'est vraiment le genre à se prêter à faire réciter en chorale. Donc Arthur, si tu passes par là, l'insta de l'émission pour envoyer des places ou pour aller nous suivre, c'est dans l'art RCP, tout collé sur Instagram, je le répète pour tout le monde, c'est dans l'art RCP sur Instagram, allez follow. Oui, on est toujours dans la Ratus Era ici.
Une voix douce et désinvolte qui raconte le monde à son échelle, c'est-à-dire grand. Merci Hugo. Allez, passons aux réactions. Est-ce que certains autour de la table connaissaient déjà Arthur Elie pour commencer ? Violette ?
Non, pas du tout.
Ryan ?
Je connaissais pas du tout, mais ça a l'air très beau et très politique.
On voit qu'il y a une dimension de la poésie qui est quand même très présente hein, dans le travail d'Arthur Elie. Est-ce que c'est quelque chose qui vous touche, ce genre d'écriture dans la musique, Marie-Lou ?
Oui, assez. Moi, je ne connaissais pas du tout non plus. Je ne connais pas Arthur Elie, donc ça a piqué ma curiosité. Après, je suis assez puriste dans la musique, donc dès que j'entends mélange des genres, parler, rapper, chanter, voilà, je demande à voir.
Garance.
Oui, moi, j'ai du mal à imaginer ce que ça fait d'entendre Brassens du rap au folk en passant par je sais plus Anne Sylvestre.
Ouais, ça c'est plutôt pour le côté poétique et politique des textes.
OK. Mais j'avoue que ça pique ma curiosité parce que j'arrive pas du tout à entendre là de ce que tu nous décris donc
Moi je trouve qu'il y a quand même un lien avec Ben Mazué, moi c'est le premier nom qui m'est sorti en tête si vous voulez créer vous imaginez l'univers dans lequel on peut être plongé. Jeanne, une réaction ?
Oui, j'allais dire que ces textes un peu très imagés, un peu abstraits, ça permet aussi d'y placer ce qu'on veut. Et quand on écoute une chanson qui nous raconte une histoire qui n'est pas hyper définie, on peut un peu y apposer les sentiments que nous, on ressent et les idées que nous, on a. Et c'est aussi agréable comme écoute.
Après lui, il dépeint quand même vachement sa vision du monde. Et il critique aussi beaucoup des musiques engagées. C'est quelque chose que vous écoutez, Ryan, par exemple ?
Je dois avouer que pas tellement. Si on regarde ma playlist, c'est pas forcément très.
Il y a quoi dans ta playlist ?
Très engagé. Tout ce qu'a décrit Jeanne est dans ma playlist. Haïm, Camille MB et voilà. Donc c'est. Je dirais pas que c'est non plus. Je dis pas qu'il y a rien dedans, mais c'est pas un message politique explicite dans les chansons.
Violette, ça t'inspire quoi tout ça ?
Moi, je dirais que ça dépend un peu des moods, les musiques engagées. Pas forcément, parce que la moitié des musiques que j'écoute, je comprends pas trop les paroles. C'est genre en portugais, donc je comprends rien. Mais du coup, pourquoi pas ? Ça dépend des moods, je pense. Si t'as envie un peu de t'énerver, enfin voilà, de faire la bad bitch dans la rue, voilà, pourquoi pas écouter des trucs un peu engagés. Ça me donne envie d'écouter, en tout cas.
Alors Hugo, tu nous as présenté la version live d'Arthur Elie. Moi, je me suis rendu compte qu'il y a quand même ces espèces de petits concerts cosy qui sont filmés et ensuite mis sur YouTube, qui sont un peu en train d'exploser. Moi, je pense souvent aux Tiny Desk concerts dans lesquels sont passées les plus grandes stars, comme Billie Eilish et j'en passe. C'est quelque chose, vous, ce format-là de concert en vidéo qui vous attire ? Vous regardez un peu de ça, Marie-Lou, ça te dit quelque chose ?
Des concerts en vidéo ?
C'est des concerts en vidéo, mais vraiment dans une ambiance salon, cosy, dans lequel l'artiste est en effectif réduit et on a l'impression du coup d'avoir une certaine proximité avec cet artiste-là.
Ouais, en plus, derrière, il a une sorte de chorale qui vient faire les chœurs sur ses chansons. C'est vraiment super intimiste.
Alors non, en tout cas, j'ai jamais assisté, mais pourquoi pas ? Franchement, ça permet, je pense, une expérience beaucoup plus agréable. Moi qui suis pas agoraphobe, mais bon. Donc non, ça peut être super agréable comme expérience.
Non, c'est vrai que c'est une autre manière d'écouter la musique. Garance, ça t'évoque quoi tout ça ?
J'avoue que moi, je suis plus spectacle vivant, donc j'ai du mal à regarder, même si c'est en effectif réduit, sur des vidéos, des concerts.
Moi, je vous conseille le Tiny Desk de Bad Bunny, qui moi, personnellement m'a fait pleurer, voilà, parce que parce que c'est quand même une star internationale qui fait des concerts immensissimes, et je pense que du coup ça perd un petit peu de contact avec le public, enfin malgré lui, parce que juste il est tellement, c'est tellement une star que voilà. Et en fait là, on a vraiment l'impression d'être proche de lui. C'est 20 minutes de pur bonheur avec de la musique un peu cubaine en fond, enfin voilà. Donc je vous conseille.
Bon, moi j'ai pas tout aimé de son Tiny Desk, mais
ils c'est vrai que c'était toujours juste.
Voilà. Par exemple, mais en tout cas c'est vrai que c'est quand même à aller voir. Merci beaucoup pour vos réponses. Si vous voulez voir la performance d'Arthur Ely, vous pouvez la retrouver sur YouTube. Elle s'appelle Hyper Poésie.
Vous écoutez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris, 93.9 FM à Paris et dans sa région.
Art visuel, art médiatique, art de la scène. C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Continuons notre heure culturelle avec Marie-Lou à travers les arts numériques pour plonger dans un documentaire sonore et mystérieux de 5 épisodes dans les années 80.
Et oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors je suis super contente de faire ma dernière chronique de la saison sur une enquête radiophonique donc, menée par Louise Régent, journaliste et autrice de podcast pour Arte Radio, sortie au début de l'été. Alors déjà, le titre du podcast m'a pas mal interpellée puisqu'il s'appelle « Qui a tué Maurice ?». Avec un nom pareil, je me suis dit au début que ça sentait forcément le fait divers tout droit sorti de la page 26 au coin extérieur droit d'un journal type le Dauphiné Libéré. Du coup, au début, j'avoue, j'ai pas vraiment eu envie de l'écouter. Et puis, piqué par la curiosité, j'ai quand même écouté la bande-annonce et j'ai changé d'avis.
Paris, juin 1980. Le corps d'un notaire est retrouvé dans la cave de son étude, rue Saint-Fiacre. Maurice Régent a été sauvagement assassiné de 17 coups de marteau. Maurice, c'était mon grand-père paternel. Et sa mort dans ma famille, c'est totalement tabou.
Waouh, plot twist. On n'a pas seulement affaire à un meurtre, mais aussi à une histoire de famille. Et dans cette famille, il s'en passe des choses. Argent, adultère, rumeurs, et puis bah, 17 coups de marteau. Pour vous donner envie de l'écouter, eh bien le mieux c'est encore de vous partager quelques passages qui m'ont particulièrement marqué. Qui a tué Maurice ? Morceau choisi. Alors déjà, vous l'avez compris, quand elle commence son enquête, Louise Régent sent très vite qu'elle s'apprête à ouvrir une boîte de Pandore. Certains membres de sa famille parlent avec une facilité déconcertante, quand pour d'autres, le traumatisme est encore bien présent, comme c'est le cas pour son père.
C'était un peu tendu, on va dire. Voilà.
C'est-à-dire ?
Ben, ambiance... Arrête, j'arrête.
J'ai aussi beaucoup aimé les interventions d'experts qu'elle a sollicitées. Alors, en tant que fan de criminologie, je dois vous le dire, ces personnes sont pour moi de véritables demi-dieux. En premier lieu, il y a Philippe Jaénada, écrivain qui s'inspire beaucoup des faits divers pour ses romans. D'ailleurs, si vous n'avez pas lu La Serpe ou Au printemps des monstres, je vous les conseille. Grâce à lui, j'ai découvert qu'il existait un bâtiment des archives de la préfecture de police au Pré-Saint-Gervais, où vous pouvez consulter de vieux dossiers d'enquête de police. Il s'en sert régulièrement pour écrire ses livres, avec une méthode bien à lui. Il y a aussi Philippe Boxot, probablement le plus cool des médecins légistes, qui revient sur le rapport d'autopsie de Maurice et donne des infos intéressantes pour l'enquête de la journaliste.
17 coups, c'est quelqu'un qui veut tuer. Il a l'intention vraiment de nuire. Il est en rage, il est fâché. C'est peut-être une rage contenue, on ne le voit pas. Mais il est vraiment fâché et il démonte toute sa haine en fracassant le crâne du notaire.
Enfin, il y a aussi Corinne Herman, avocate pénaliste, qui œuvre depuis des années sur les fameux cold cases. Elle a notamment aidé à résoudre l'enquête sur la disparition d'Estelle Mouzin.
Et c'est marrant parce que quand il y a des secrets de famille, il y en a toujours un pour dire ben « moi, cette vérité-là, je voudrais la comprendre autrement ». Et ça a des conséquences et des répercussions qui sont très intéressantes.
On sent que le travail fourni par Louise Régent a été long et intense, puisqu'elle se confie aussi sur l'impact de ses recherches sur sa vie et celle de ses proches. À travers cette enquête, elle mène une véritable quête de vérité, une quête de souvenirs aussi, car comme elle le dit elle-même...
Quelque part, plonger dans l'histoire de Maurice, c'est aussi aller à sa rencontre, à lui.
Qui a tué Maurice ? Une série documentaire en 5 épisodes, écrite par Louise Régent et produite par Arte Radio, et c'est disponible sur toutes les plateformes d'écoute.
25 à 30 minutes, ça retrace le meurtre d'un notaire de 59 ans, grand-père de l'autrice... Et c'est sur toutes les plateformes de podcast. Qu'est-ce que ça vous inspire, Jeanne ?
Eh bien, c'est une sorte d'enquête radiophonique. Je ne l'ai pas écoutée, mais ça me fait trop envie. Mais ça me fait beaucoup penser. Je ne sais pas si certains d'entre vous suivent l'anti-enquête Cerno. Et c'est, alors si vous ne connaissez pas, c'est un journaliste qui s'appelle Julien Cernobori, qui enquête sur un des meurtres de vieilles dames dans les années 80 par Jean-Thierry Mathurin et Thierry Paulin. Et en fait, il dresse en creux un portrait de toute la société, parce qu'il va interviewer des gens qui auraient pu croiser ou les victimes ou les tueurs dans leur quartier, etc. Et c'est passionnant, il est trop fort. Bon, si vous commencez maintenant, il y a genre 300 épisodes, mais c'est génial, voilà, dans ce format comme ça d'enquête radio, c'est trop bien.
Tu peux nous redire juste ?
Ça s'appelle Cerno, l'anti-enquête de Julien Cernobori, c'est indépendant et c'est sur toutes les plateformes d'écoute.
Toutes les plateformes de podcast. Est-ce que toi, Violette, ça te parle ?
Moi, j'écoute pas du tout ce genre de podcast, j'avoue. Mais c'est vrai que je trouve que le format est bien. 5 épisodes, 25 minutes. Moi, c'est parfait. C'est exactement le genre de format qui pourrait parfaitement me convenir pour pourquoi pas me lancer. Et c'est vrai que ces extraits donnent hyper envie. Donc, je pense que cet été, ça va être peut-être une découverte de nouveautés.
Garance ?
Ouais, bah, moi non plus, c'est vrai que là, ça me fait penser au true crime, mais le fait que ce soit Arte Radio qui le fasse, et du point de vue de quelqu'un qui est concerné directement par ses secrets de famille, je trouve ça hyper intéressant comme angle, donc ouais, j'irai écouter.
Oui, c'est vrai que c'est un angle nouveau quand même, les enquêtes de famille. Ryan, toi, ça te parle ?
Moi, ces sujets-là me parlent pas, je regarde jamais de true crimes, d'histoires de crimes, de meurtres, etc. Parce que ça me parle pas, je trouve ça glauque et flippant. Et, oui. Et je reconnais qu'ils regardent ça pour s'endormir.
Pourtant, ça marche.
Je ne comprends pas.
À la radio,
pas.
Ça marche. Ça.
Mais c'est exactement ce que j'allais dire. Le format radio, je trouve, est génial pour ça. Pas pour moi, hein, mais pour les autres, tous les autres qui sont beaucoup. Le documentaire, l'enquête radio, je trouve que le format est génial parce que ça nous embarque et je trouve que c'est la puissance de la radio pour ces choses-là.
Hugo ?
Ouais, moi j'avoue la façon dont Marie-Lou a présenté le podcast, là, ça m'a donné vraiment envie d'aller me renseigner, d'aller écouter. C'est fait par Arte, Arte c'est qualitatif. Après, moi je suis pas non plus un. J'écoute des podcasts, mais j'avoue, ça fait un moment que j'en ai pas écouté. Et là, ça m'a vraiment donné envie d'aller suivre cette enquête finalement.
Marie-Lou, comment est-ce que tu l'as découvert ?
Moi, pour le coup, je suis une grosse consommatrice de podcasts et a fortiori de podcasts true crime. Et c'est vrai que du coup, ça a attisé ma curiosité quand j'ai vu qu'Arte Radio en faisait, parce que c'est vrai que c'est pas trop leur credo habituel. Et en plus, quand j'ai vu qu'en sous-texte, on parlait beaucoup de l'histoire d'une famille et que ça parlait du meurtre de son propre grand-père, j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que je me dis... comment on vit avec ça en fait, enfin, comment dans une famille on vit avec quelqu'un qui a une mort brutale et sans doute très atroce. Donc voilà, moi je suis une grande consommatrice et je ne peux que vous encourager à l'écouter.
Qu'est-ce que ça vous inspire d'aller creuser cette intimité là, justement de mettre sur un format audio l'intimité qu'on peut avoir par rapport à un grand-père on raconte un peu son histoire, ça t'inspire quelque chose, Violette ?
Non, en fait, moi, je voulais un peu demander, Marie-Lou, si on creusait justement que les faits ou si on rentrait un peu aussi dans cette famille, dans son intimité. Parce que moi, je sais que dans ma famille, il y a eu un meurtre un peu comme ça. Et c'est vrai que ça a toujours été un sujet tabou. Dans ma famille, beaucoup de personnes ont été traumatisées et on n'en parle pas. Et moi, du coup, je suis deux générations en dessous et je ne connais rien de cette histoire-là. Donc c'est vrai que tu vas savoir si est-ce qu'elle vient un peu décortiquer les personnes qui ont été directement touchées pour en connaître un peu plus là-dessus.
Oui, et en plus, en fait, ce qui est intéressant, c'est que, alors, certes, en fait, l'enquête et les circonstances de la mort de son grand-père, ça reste le fil rouge de l'histoire, mais elle interroge beaucoup de membres de sa famille, notamment les enfants de ce Maurice, parce qu'ils étaient 6, et donc il y a un peu de matière quand même à interroger, donc c'est intéressant de voir un peu les réactions des uns et des autres, et surtout, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, on pourrait dire que comme c'est son grand-père, elle en a une image un peu enjolivée, elle n'est pas objective, et en fait, non, parfois elle pose des questions qui peuvent déranger. Ah, peut-être que c'était quelqu'un de véreux, peut-être que c'était quelqu'un de volage. Enfin voilà, il y a plein de. Elle n'hésite pas un peu à mettre un coup de pied un peu dans la fourmilière.
Merci pour vos réactions. Marie-Lou nous a proposé Qui a tué Maurice, un documentaire sonore de 5 épisodes, 25-30 minutes en moyenne à écouter sans plus attendre sur Arte Radio et toutes les plateformes d'écoute de podcast.
Merci d'avoir écouté cette première partie de C'est dans l'art. Pour les curieuses et curieux, nous continuons de découvrir de nouvelles œuvres et personnalités.
Place à la littérature, au cinéma et à la sculpture. À tout de suite!